I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
What time is it?
Yeah, no.
Time is it?
Yeah, no.
Doctor, that. Doctor, that. What time is it?
Yeah, no.
What time is it?
Yeah, no.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 309 du podcast Agenda Actuel en Matéi. Très heureux de vous retrouver pour votre émission du jeudi. À mes côtés cette semaine, il y a Grégory Richard. Grégory, bonjour.
Salut Alain, bonjour à tous.
Grégory, nous sommes tout seuls cette semaine et donc pas en vidéo d'ailleurs, je tiens à le préciser, ne cherchez pas la vidéo cette semaine sur YouTube, enfin vous aurez une image fixe et du son, mais pas d'image de nous, Camille est en semaine de repos et on le salue bien évidemment. Grégory, que va-t-il se passer en cinquième semaine? C'est l'heure de la preview et on a de la preview avec de la NFL qui est de retour à Londres. On va parler de tout ça et de tous les autres matchs, bien sûr. L'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, tous les paris en ligne sur la NFL, c'est sur Unibet, n'hésitez pas à aller y faire un tour, d'autant que cette année on peut regarder les matchs en streaming quand on parie sur Unibet, donc n'hésitez pas à y aller. L'affiche de la semaine, les pronos et les meilleures cotes, c'est parti pour une nouvelle preview.
Top line on 3, 1, 2, 3, top line.
Retour à Londres, Grégory est dans un nouveau stade puisqu'on prend la direction de Tottenham ce dimanche pour l'affiche entre les Oakland Raiders, 2 victoires, 2 défaites, et les Chicago Bears, 3 victoires, 1 défaite. C'est notre affiche de la semaine parce que oui, quand la NFL est à Londres, notre affiche de la semaine, c'est quand même ce que peut voir le public européen. Les Raiders viennent pour la troisième fois en tant qu'équipe qui reçoit à Londres. Les Bears, eux, viennent pour la seconde fois. La dernière fois, c'était en 2011. La grande histoire de ce match, évidemment, Grégory, ce sont les retrouvailles entre Khalil Mack et les Raiders. On rappelle qu'il a été envoyé à Chicago parce que Oakland ne voulait pas lui donner un gros contrat en début de saison dernière, c'était en 2018. Il a 4 sacs et demi en 4 matchs. Est-ce que tu penses qu'on va le voir partout ce dimanche?
C'est possible. On rappelle, pour compléter ton anecdote, que les Raiders ont encore un premier tour lors de la prochaine draft grâce à l'échange de Khalil Mack. C'est dire comment ils ont vidé le portefeuille comment les Bears ont vidé leur portefeuille pour espérer récupérer le pass rusher pro bowler. Oui, en l'occurrence, alors, il peut y avoir de l'action. C'est un match-up en tout cas où je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Parce que, en l'occurrence, il y a une ligne offensive d'Oakland sur laquelle on était assez inquiet. On savait pas trop sur quel pied danser. On se disait qu'avec l'arrivée de Tom Cabell, avec les ajouts un peu incertains, je pense à Colton Miller, notamment sa saison rookie l'année passée qui était assez difficile, on s'attendait à une saison peut-être un peu plus compliquée pour les Raiders, notamment sur le pass pro. Bah, manifestement, c'est pas ce qui saute aux yeux. Je crois qu'ils ont concédé que 8 sacs depuis le début de la saison en 4 matchs.
C'est ça, ils sont 8e en NFL sur cette stat, 8 sacs autorisés.
Donc voilà, et puis ils n'ont pas joué que des mauvais pass rush. Alors certes, il y a eu Denver où on sait qu'il y a une petite problématique à ce niveau-là, mais voilà, ils ont joué Minnesota. Enfin, ils ont joué quand même, mine de rien, des défenses assez agressives. Et ça a quand même globalement tenu la route. Alors c'est vrai que là, Mac, tu l'as dit, il va quand même avoir une grosse revanche à prendre malgré tout, parce que voilà, même s'il a obtenu son gros contrat, je pense que cette fait brader entre guillemets de cette manière-là par Oakland avec ce qu'il avait apporté à la franchise, ça a pu lui rester en travers de la gorge. Mais en tout cas, oui, je pense que ça va être un gros match-up à surveiller. Et même s'il n'y a pas forcément de sac, je ne doute pas du fait que Derek Carr sera pas mal mis sous pression ce dimanche.
C'est vrai que on parle donc de Khalil Mack, y a la vengeance, etc. Et c'est pas que un gimmick, c'est pas que pour vendre ce match, c'est une vraie opposition clé, tu l'as dit, au clan de Naoko, autorisé Cuissac. Les Bears, eux, en ont 17 cette saison, ils sont 3e en NFL sur cette statistique, ils sont derrière les Panthers et les Patriots, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une vraie opposition clé de ce match, ça va être vraiment intéressant, on va voir vraiment ce que Derek Carr peut faire. On va dire qu'il a l'avantage de connaître le terrain, du coup, parce que cette équipe d'Oakland, on l'a dit, a joué régulièrement à Londres, et on sait que pour le coup, c'est pas anodin, parce qu'ils ont souvent des problèmes avec la pelouse, s'il pleut, c'est une pelouse naturelle qui s'arrache un peu de partout, et les Américains n'ont pas toujours l'habitude de ça. Donc on peut dire que c'est un petit avantage Oakland là-dessus, mais ça va être une vraie opposition clé de cette rencontre. Du côté de la défense, pour rester là-dessus, on parlait de Khalil Mack, il y a aussi la défense au sol des Bears, ils sont 3e contre la course, 61,5 yards seulement autorisés à leurs adversaires en moyenne. Donc là, il y a aussi un énorme défi pour Josh Jacobs. On parlait de Derek Carr au poste de quarterback, mais Josh Jacobs fait un bon début de saison en tant que rookie. Là, il y a quand même un mur en face.
Ouais, tu l'as dit, parce que c'est sûr que sur les principaux match-up où on attendait justement Chicago, là aussi, c'est pareil. Hein, je prenais les adversaires de la O-line d'Oakland. Si on regarde plus précisément du côté de Chicago, ils ont quand même joué Denver avec notamment la doublette Freeman-Lindsay qui est quand même assez performante depuis le début de la saison. Ils ont croisé la semaine dernière Minnesota où ils ont bien maintenu sous pression Dalvin Cook au point de rendre l'attaque des Vikings inoffensive. Donc très clairement, là-dessus, quand on voit que Josh Jacobs a un peu plus d'impact que le jeu aérien des Raiders depuis le début de la saison, c'est sûr qu'on peut, dans la même lignée que la rencontre de la semaine passée face à Minnesota, se dire que une fois qu'on arrive à contenir le jeu au sol des Raiders, est-ce qu'après, avec les solutions assez réduites qu'a Derek Carr au niveau du jeu aérien, même si tu le citais par exemple mardi, il y a Waller le tight end ou encore Tyrell Williams qui fait un bon début de campagne, bah mine de rien, ça peut se compliquer, et avec le nombre de joueurs capables de faire des interceptions, faut pas oublier que Kyle Fuller a pas fait une énorme prestation la semaine dernière contre Stephon Diggs, il sera également, lui, je pense, assez revanchard. Donc ça, ce sera clairement un match-up à identifier, ce run stop des Bears contre Josh Jacobs et le jeu au sol des Raiders.
Tu l'as dit, Derek Carr n'a pas beaucoup d'options et tu as cité Darren Waller, je voulais en parler. Est-ce que attaquer les Bears avec le tight end, c'est une option pour faire craquer un peu cette défense? Est-ce que c'est potentiellement un des points faibles? Ou même pas, parce que c'est équipé de partout.
Bah oui, c'est un peu équipé de partout. Non seulement ils ont les safety, mais à mon sens, je trouve qu'ils ont les linebackers qui sont capables de couvrir. Alors j'ai un doute, Roquan Smith sera là?
Pour l'instant, c'est très flou. On rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, Roquan Smith était absent du dernier match, excusé pour motif personnel. Certains médias US rapportaient qu'apparemment, il n'était pas lui-même. Alors, vous interprétez ce que vous voulez là-dedans ces derniers temps. Voilà, donc c'est tout ce qu'on sait. Il a été vu vers le centre d'entraînement, si je ne dis pas de bêtises, mercredi. Mais ça reste une inconnue.
Ça me rappelle Everson Griffin l'année dernière, ton histoire là.
C'est un peu ça, ouais. On se demande un petit peu ce qui lui arrive. Pour l'instant, il communique pas.
Voilà, mais en tout cas, il y a des linebackers pour terminer ce que je disais, voilà, qui peuvent courir, et même un joueur comme Trevathan, par exemple, est suffisamment athlétique pour, on va dire, couper les trajectoires sur la couverture. Donc, c'est pas forcément le match-up, je trouve, qui est le plus intéressant en attaque pour Oakland, si tant est qu'il y ait des match-ups qui soient favorables à l'attaque d'Oakland par rapport à la défense des Bears.
En tout cas, Darren Waller, c'est quand même une sacrée histoire parce que je regardais ses stats, il a 2 réceptions en 6 matchs en 2015 avec les Ravens, 10 réceptions en 12 matchs en 2016, suspendu en 2017 pour toute l'année pour dopage, 6 réceptions en 2018, et là il explose avec 33 réceptions.
C'est un ancien joueur de Georgia Tech, si je ne me trompe pas. Je vais pas dire
Tu ne te trompes pas. Georgia Tech, sélectionné au 6e tour en 2015 par les Ravens.
Si j'en parle, c'est pas un hasard, c'est parce que voilà, c'est principalement. Ça me rappelle un peu Will Disley, par exemple, cette année à Seattle, bon, alors, qui a une trajectoire différente. Mais voilà, c'est des tight ends principalement bloqueurs quand ils sont arrivés en NFL et qui, là, pour le coup, avec le système offensif qui est mis en place par John Gruden et son coordinateur Greg Olson, qui se révèlent un petit peu comme des menaces aériennes. Et il a parfaitement pu prendre le relais de Jared Cook malgré une formation où, a priori, il n'était pas censé avoir des mains fiables en arrivant chez les pros.
La défense des Raiders n'a arraché que 3 ballons cette année, ils en ont donné 4, donc ça fait une différence de moins 1. Ils concèdent 385 yards par match, ils encaissent 25,5 points par match, mais est-ce que les Bears vont réussir à en profiter? Est-ce que les Bears vont réussir à marquer assez de points? Parce que les Bears n'ont pas un gros jeu au sol cette année, ils sont dans le dernier tiers de la ligue, et ils sont 30e sur les yards gagnés cette saison, 273,5 yards par match. Est-ce que, alors on rappelle, Mitchell Trubisky a priori ne devrait pas jouer. puisqu'il est blessé depuis le dernier match, même s'il devrait revenir assez vite. Donc on devrait avoir Chase Daniel en tant que quarterback, comme quarterback de Chicago pour ce match à Londres. Est-ce que les Bears peuvent mettre assez de points, même si leur défense verrouille Derek Carr et Josh Jacobs et compagnie?
Bah, c'est un peu mon interrogation, parce que... alors c'est vrai qu'on a été... alors moi le premier, hein, c'est vrai que j'étais très pessimiste sur les chances d'Oakland de vraiment bien figurer cette saison, mais on se rend compte que mine de rien, ils prennent pas non plus, alors peut-être hormis la copie face à Minnesota notamment, bon alors ils ont joué Kansas City, mais ça s'est plutôt joué sur un carton. On va dire que sur l'ensemble d'un match, c'est pas non plus une équipe qui prend un wagon de yards, quoi. C'est pas les Dolphins ou bon là je prends des cas un petit peu extrêmes, mais en tout cas défensivement c'est un peu plus solide, on voit un peu plus de choses, on perçoit un peu plus d'initiative, on dira, de la part du coordinateur Paul Gunter par rapport à ce qu'on pouvait voir l'année dernière. Moi la clé, je vais pas être très original, la clé, et t'en as parlé, ça me paraît également être le jeu au sol, d'autant plus, et je pense que tu allais insister là-dessus, on va quand même avoir un absent de marque au niveau du deuxième rideau des Raiders. Et en effet, face à ce backfield offensif de comité du côté de Chicago et face à un David Montgomery qui a été assez bien contenu, mine de rien, contre Minnesota, je pense que celui qui va avoir l'ascendant pourrait ou favoriser la victoire des Bears ou en tout cas donner une chance sérieuse à l'attaque d'Oakland de rester dedans jusqu'au bout.
Je ne vais pas insister outre mesure sur l'absence de Vontaze Burfict. On va juste dire qu'il est absent pour le moment et qu'on n'a pas eu le résultat de l'appel de sa suspension. Juste un mot pour les Raiders. On sait ce que sont les Bears aujourd'hui, même s'ils ont un jeu au sol moins performant que l'année dernière. Mais on sait ce que sont les Bears avec une grosse défense, une attaque un peu plus poussive. Pour ceux qui vont aller à Londres ce week-end, ils doivent s'attendre à quoi, voire quoi. Est-ce qu'on sait ce que sont les Raiders d'un autre côté? Il y a un coureur avec de l'avenir qui est Josh Jacobs. Il y a un quarterback qui est correct, qui est Derek Carr. Un tight end qui sort un peu du lot maintenant. Quels autres secteurs semblent en voie de solidification, si je peux dire ça comme ça? Est-ce que cette reconstruction, elle a un sens? Qu'est-ce qu'on va voir à Londres pour ceux qui y vont?
Je trouve que... Alors, c'est pas une surprise vu le head coach. Après, je m'avance pas plus que ça parce qu'en effet, je vois des matchs, mais j'ai pas forcément une idée claire et précise sur l'identité de chaque franchise. J'ai quand même l'impression que c'est une équipe avec beaucoup plus de caractère. Et ça, c'est pas anodin venant d'un coach comme John Gruden. Et même, j'en parlais déjà, cette envie, on dira, à l'instar. Alors, c'est sûr que quand on prend la saison dernière où Oakland était un petit peu en mode tanking, à la jouer un peu paillasson et à dire allez-y, de toute façon on s'en fout, on attend notre tour de draft. Là cette année, forcément, je pense que quand on est fan des Raiders, on sent déjà un côté un peu plus incisif, et ça s'est ressenti d'ailleurs du côté d'Indianapolis où aussi bien en attaque qu'en défense, ils ont été propres du début à la fin. Donc voilà, et je pense que c'est un petit peu symbolisé par cette ligne défensive où sans énormes playmakers à l'heure actuelle, ils arrivent quand même à faire leur trou. On a un rookie Clelin Ferrell qui s'intègre bien à l'équipe, un Benson Mayowa également qui, quand on fait appel à lui, répond présent. Sur le milieu de la ligne, PJ Hall également qui commence à avoir pas mal de snaps. Donc c'est cette rotation, on dira, sur la ligne défensive et cette émergence de jeunes talents couplés à cette expérience de joueurs sortis un peu de nulle part. Hein. Mayowa, c'est plus un joueur de rotation que vraiment un titulaire. Mais voilà, c'est ce côté caractère, envie de se battre jusqu'au bout, qui je pense peut être intéressant, surtout contre Chicago, dont ça a toujours été le leitmotiv, et contre une ligne offensive, je ne sais pas si tu allais en parler, une ligne offensive que je trouve quand même un peu sur courant alternatif depuis le début de la saison, en tout cas par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les standards de 2018.
Et ce sera donc un match passionnant, vous le voyez, entre une équipe de Chicago qui est quand même prétendante au play-off assez clairement dans la NFC et une équipe d'Oakland qui est donc en reconstruction. Attention Grégory, la stat, gros enjeu, les 9 dernières équipes qui ont gagné un match à l'international se sont qualifiées pour les play-offs la même saison. Ouh. Les 9 dernières.
Mais tu sais, t'étais taquin, mais pour le coup, on a souvent eu des purges en affiche à Londres, on a 2 équipes qui n'ont pas de bilan négatif.
C'est ça, là on a une belle affiche. Non, mais encore une fois, on peut vraiment le souligner et se faire plaisir, c'est une belle affiche. Et encore une fois, donc les 9 dernières équipes qui ont gagné à l'international, alors c'est Londres plus Mexico, se sont qualifiées pour les playoffs la même année, donc autant dire que c'est une occasion en or pour les Raiders, s'ils gagnent là, c'est la voie des playoffs. Pronostic, Greg?
Alors, en plus, je l'ai changé juste avant l'émission, donc j'étais optimiste pour Oakland. Après, c'est vrai que c'est un peu la même chose que pour le Chicago-Minnesota. J'ai peur que Josh Jacobs soit quand même assez bien contenu et que la défense à elle seule. Ça, c'est ce qui m'inquiète un peu. Je suis pas sûr que les fans londoniens soient gavés en termes de points.
Ah non, pas ce,
À
oui, ce
mon
sera pas
avis,
le
on sera
programme.
peut-être aux alentours d'un 17-14, mais
Ouais, ça va pas être un.
j'irai plutôt en faveur des Bears en l'occurrence.
Moi, je vais rester sur les Bears aussi. Je pense qu'ils n'ont pas une grosse marge avec leur attaque cette année, mais la défense est assez forte pour normalement remporter celui-là. Ça fera donc Bears pour tout le monde. On passe au pronostic.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong!
Yes, sir.
We're gonna go 1-4-3, 1-2-3, work!
Les pronostics de la semaine, et Grégory, la semaine dernière, a fait du dégât au niveau des scores. Enfin, ça n'a pas créé des écarts, mais les scores sont pas brillants. 7 pour Raoul et toi, c'était donc sur 15 matchs, on le rappelle, donc on est en dessous de 50% de passes complétées. Camille, Raphaël et moi sommes à 6 la semaine dernière. Au classement général, Raoul est quand même toujours en feu avec 41. Tu es derrière à 38, je suis à 36, Raphaël 35, Camille 33.
En tout cas, ce qui est bien, c'est que grâce à ma superstition et à Dan Quinn, je vais pouvoir gagner pas mal de points
cette
année.
C'est dingue, ça. Ouais, non, les Falcons te rapportent un max en pariant contre eux. Les pronostics de la semaine, c'est parti. Vendredi 13 septembre à 2h20 du matin, c'est donc dans la nuit du jeudi au vendredi, si vous nous écoutez jeudi soir. Seattle Seahawks, 3 victoires, 1 défaite. Los Angeles Rams, 3 victoires, 1 défaite. Ça aurait pu être une des affiches de la semaine si ça avait été un peu plus tard. C'est une belle rencontre, bon test pour la défense des Rams, parce que Russell Wilson, il est quand même sacrément en feu, avec 8 touchdowns et 0 interception pour le moment. Est-ce que cette équipe des Rams, qui a pris un carton la semaine dernière en plus contre les Buccaneers, va réussir à s'en relever? On rappelle que c'est à Seattle, donc grosse ambiance.
Oui, c'est un match qui m'intrigue beaucoup, dans le sens... Alors, tu parlais de la défense des Rams, alors c'est sûr qu'elle est forcément revanchard après avoir pris 55 points de Jameis Winston. Après, moi, c'est vrai qu'il y a un match-up qui m'intrigue tout particulièrement, c'est la ligne offensive des Rams, dont vous parliez mardi avec Raphaël, contre la D-line de Seattle. Alors, on s'arrête beaucoup sur le pick six de J.D. Von Clowney, et en effet, ce retour assez impressionnant. Il y a des joueurs qui sont intéressants, mais j'ai du mal encore à être vraiment impressionné par cette ligne défensive, qui est toujours orpheline de Jaren Reed, hein, bien entendu. Ça, je ne l'omets pas forcément. J'imagine qu'à son retour, ce sera peut-être différent. En tout cas, j'ai encore du mal à m'enthousiasmer. Et je me dis que très clairement, après le match qu'a eu Jared Goff, ce ne serait pas impossible qu'on mette un peu plus de responsabilité sur les épaules de Todd Gurley. D'entrée, en tout cas.
Faut espérer.
Et j'attends. Oui, je sais que c'est un peu frustrant si on est fan de Los Angeles de voir Jared Goff lancer à tout va et Todd Gurley être utilisé de manière un peu sporadique.
En fait, c'est un peu frustrant quand tu as Todd Gurley dans ton équipe fantasy.
C'est
voilà.
Ça.
Moi je dis ça, j'ai hérité de lui avec le 9ème choix. Bon voilà, c'était
même
le pari.
Si, même s'il met des TD, hein. Il en a 5 TD en 4 matchs. Hein.
C'est vrai.
Avec le peu de portée
vrai.
De ballon qu'il a, c'est déjà une performance en soi. Enfin, en tout cas, le jeu au sol de Rams à 5 TD, autant pour moi. Il y en a un pour Brown. Mais oui, voilà. Ça, après, je te rejoins. C'est sûr qu'il va falloir arrêter Russell Wilson et à Seattle en prime time, ça va être une donnée à prendre en compte. Et voir comment Jared Goff forcément va se remettre de ça. Franchement, c'est un match qui peut jouer à pile ou face. Très clairement, c'est un match de division en plus. J'aurais tendance à aller plutôt vers Los Angeles. Parce qu'il y a... Vas-y.
Ouais, j'allais te dire, je joue les Rams aussi sur le côté plus complet peut-être de l'équipe et des deux escouades.
Moi, ouais, il y a beaucoup de... Enfin, je ne sais pas s'il y a plus d'expérience du côté de Los Angeles, mais c'est vrai qu'il y a des cadres vraiment impressionnants à Seattle. Et tout autour, il y a beaucoup de postes qui posent question. J'oublie pas l'interrogation Brian Schottenheimer, dont le match-up avec Wade Phillips va être prépondérant également. Donc, c'est ce qui me fait pencher pour les Rams. Je pense que la défense et le backfield défensif que j'ai encensé il y a peu de temps, donc j'espère qu'il va se reprendre. Voilà, je pense qu'il aura quand même un petit peu le dessus et qu'il se remettra de ce match compliqué face à Tampa.
Les Rams pour tout le monde. Coup d'envoi dimanche à 19h. Cincinnati Bengals, 0 victoire, 4 défaites. Cardinals, 0 victoire, 3 défaites. Un nul qui gagne son premier match.
Bah écoute, c'est pareil, j'ai changé mon prono avant l'émission. J'attendais de voir Cincinnati. C'est vrai qu'il y a toujours ces problèmes de cornerback à Arizona qui m'inquiètent. Mais on voit que Byron Murphy, leur rookie, est en train de monter en régime petit à petit. Et il n'y a toujours pas de receveur du côté des Bengals, en tout cas très très peu. Vu la prestation qu'ils ont affichée contre Pittsburgh, qui n'est pas non plus un ogre annoncé au vu de leur début de saison, je pense qu'Arizona a la capacité d'aller le chercher celui-là. Mais ça va être un match avec beaucoup de sacs, je pense.
Je pense aussi oui, que ça va être le premier d'Arizona. Ils sont trois, c'est dingue, ils sont troisième sur le nombre de passes tentées, 21e sur les yards par match dans les airs. Donc il y a quand même une sorte de mitraillette pas tout à fait efficace au niveau du tir. Mais il y a quand même, et je pense quand même que ça va... Je le mets sur les Cardinals parce qu'il y a un peu plus d'armes défensives, ils ont 11 sacs. J'y vois un peu plus de playmaker. Et puis il y a un moment où ça va passer pour Kyler Murray. Donc Cardinals pour tout le monde. Alors Titans, 2 victoires, 2 défaites. Bills, 3 victoires, 1 défaite. Alors on a un mystère au moment où on enregistre. C'est Josh Allen. Sera-t-il disponible ou pas? Pour l'instant, on n'en sait rien. Il revient de commotion cérébrale. En général, c'est un peu court maintenant hein, pour jouer le match de la semaine suivante. C'est plutôt 2 semaines. Donc ce sera lui ou Matt Barkley. Est-ce que ça change quelque chose?
Bah, de ce qu'on a vu de la fin de match de dimanche dernier face à New England, Matt Barkley, sans être extraordinaire, il arrivait à peu près à faire avancer l'équipe. Alors contre la défense des Pats quand même, c'est pas une petite chose vu que c'est la meilleure défense de ce début de saison. Après bon, c'est sûr que c'est différent, il y a un contexte de quatrième quart avec des jeux un peu plus, on va dire un peu plus risqués, etc., etc. Franchement, je te dis, de toute façon, je pense que Buffalo, ça va être ça toute la saison, peu importe le quarterback qu'ils auront. Ça va être, allez, mettons, grand maximum 15 à 20 points par match de moyenne. Et après, il faudra compter sur la défense pour faire le boulot. Après, c'est lié à l'autre mystère perpétuel, Marcus Mariota de l'autre côté. Hein, qu'il soit là ou pas là, de toute façon, ça reste un mystère aussi.
Alors, Mariota, il a quand même un avantage, c'est que les Titans n'ont perdu qu'un seul ballon cette saison. C'est le plus petit total sur la saison pour le moment. Au passage, d'ailleurs, très bonne QV au niveau des ballons perdus. Seulement 178 ballons perdus dans toute la NFL en 4 semaines. C'est le troisième plus petit total de l'histoire, derrière 2017 et 2014. Plus le temps passe, moins on perd de ballons en NFL.
Pour la petite, plus on joue en screen pass aussi, hein. ça doit jouer un peu.
Ouais, mais en tout cas, le jeu caractéristique ou pas, mais en tout cas, on perd de moins en moins de ballons. La moyenne tend à baisser. Moi, je vais prendre les Titans, je vais dégainer le premier, mais les Bills ont la deuxième défense de la Ligue sur les yards. Ils sont derrière les Patriots. Je pense qu'ils ont une très bonne défense, mais je vois pas. Comme les Titans sont quand même une défense correcte aussi, je pense que ça peut passer. Évidemment, si Marcus Mariota il met un peu du sien, mais il y a Derrick Henry, il y a des choses. Donc je vais dire les Titans, c'est comme ils sont propres, et je sais pas ce que Matt Barkley peut réserver sur un match comme ça. Je vais dire les Titans.
Oui, je te rejoins globalement. C'est sûr que offensivement, je pense que Buffalo a la capacité. Généralement, Dean Pease a un run stop assez efficace du côté de Tennessee depuis son arrivée. Et après, avec les cornerbacks assez polyvalents et athlétiques qu'ils ont, je pense qu'ils sont capables de faire déjouer les quelques cibles qu'aura Barkley à sa disposition. Donc ça va être un match défensif également, je pense. Mais j'irai quand même plutôt vers Tennessee.
Raiders, 2 victoires, 2 défaites. Bears, 3 victoires, 1 défaite. On a tous les deux dit les Bears. On est d'accord?
On a tous les deux dit les Bears, ouais.
Saints, 3 victoires, 1 défaite. Buccaneers, 2 victoires, 2 défaites. Celui-là est intéressant. Tampa sort d'un énorme match offensif contre les Rams. Les Saints sortent d'un énorme match défensif contre les Cowboys. Est-ce que tu es plutôt attaque des Buccaneers ou défense des Saints?
Faut se rappeler que l'année dernière, Tampa Bay, dans la belle période de Fitzpatrick, avait gagné à New Orleans malgré la bonne saison derrière des Saints. Donc c'est souvent une équipe qui ne la réussit pas trop. Il me semble qu'on a gagné les 3 des 4 derniers matchs face à New Orleans. Maintenant, c'est vrai que le run stop de New Orleans continue de m'impressionner. Et bon, après, c'est toujours la même problématique. À partir du moment où tu arrives à contenir Peyton Barber et Ronald Jones, je pense que Jameis Winston va nous faire du Jameis Winston, c'est-à-dire un jeu risqué où ça peut être une passe de 70 yards pour Mike Evans, comme ça peut être une interception grossière. Et bon, on sait que je peux être assez critique généralement sur la défense contre la passe de New Orleans, mais bon, ils ont quand même des joueurs capables de provoquer des turnovers aussi, donc c'est ce qui m'amène à pencher quand même un peu plus vers la Nouvelle-Orléans, et même si Bridgewater en effet me rassure pas à 100%, je vois et pas la défense ça. Le freiner jusqu'au bout.
C'est ça, moi je vais dire les Buccaneers, tu vois, parce que je pense que la défense des Buccaneers peut embêter Teddy Bridgewater. Ils ont la meilleure défense au sol avec 59,3 yards par match autorisé. Alors évidemment, ils ont mené, il y a eu des circonstances, ça reste que 4 matchs. Mais je pense qu'ils peuvent mettre la pression sur Teddy Bridgewater et pourquoi pas aller chercher ce match en le débordant un petit peu.
Les Saints ont battu Dallas avec beaucoup de sacs, hein.
Oui, en plus.
Donc c'est pas... Bon, mais ben, je te...
Ah,
moi,
oui, pardon.
On en a parlé. Moi, je te dis, hein, c'est fort possible. Hein, ce serait pas. Moi, ça m'étonnerait à moitié, mais bon, je sais pas.
Écoute, faut bien jouer quelques surprises.
Tu as raison.
Donc je vais jouer celle-là. Encore une fois, je pense que il peut envoyer Bridgewater à la faute. Giants, 2 victoires, 2 défaites. Vikings, 2 victoires, 2 défaites. Alors, 2 victoires de suite pour Daniel Jones. Mais là, il y a quand même une plus grosse défense en face. Les Vikings sont 6e sur les yards concédés. Ça va pas être... il avait joué quoi, du coup, pour gagner
Tampa-Washington.
Tampa-Washington, voilà. Bon, notamment Washington, qui est pas tout à
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Fait à la fête. Donc, Daniel Jones peut-il enchaîner avec une 3e victoire de suite? C'est à domicile. C'est contre des Vikings qui ont l'air un peu dans le doute en attaque. Un euphémisme. J'essaye de hyper. Après, je pense que face à la défense des Giants, cette fois, ça devrait passer pour Minnesota. Donc, je vais dire les Vikings.
C'est un peu ça. Alors, c'est vrai que contre Washington, la défense a fait bonne figure. Mais bon, vous en parliez un petit peu. Les circonstances, le fait de balancer un petit peu Dwayne Haskins comme ça, avec déjà une équipe à moitié éclopée autour de lui, forcément, ça risquait pas de donner grand-chose. Ils ont quand même pris 32 points à Tampa la semaine d'avant. Faut pas l'oublier non plus. Donc c'est vrai que déjà, il va falloir stopper le jeu au sol et Dalvin Cook, ce qui va pas être une chose évidente. Mmh. Et bon, encore une fois, je vais pas défendre Kirk Cousins qui, depuis le début de la saison, ne donne clairement pas satisfaction. Après, je pense qu'il y aura quand même quelques petits réglages qui auront été faits suite aux déclarations d'Adam Thielen. Donc, honnêtement, je ne vois pas les Vikings gagner de 20 points, mais je pense que ça suffira pour leur permettre de repartir du bon pied.
Vikings pour tout le monde, et typiquement, ça sent le match de rachat. Je ne dis pas qu'ils vont jouer comme ça jusqu'à la fin de l'année, mais c'est typiquement le match rebond face à une défense un peu faible, donc en théorie. Eagles, 2 victoires, 2 défaites. New York Jets, pardon, 0 victoire, 3 défaites. Peut-être le retour de Sam Darnold. Même avec ça, ça risque quand même d'être, de pas être suffisant face à une équipe de Philadelphie qui s'est un peu réveillée la semaine dernière contre les Packers et qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complète.
Oui, oui. Alors après, c'est toujours compliqué. Oui, peut-être que Darnold va revenir plus tôt que prévu. Après, il y aura toujours cette épidémie, on dira, de blessures en interne. Ça me paraît quand même un peu léger pour pouvoir embêter les Eagles à l'extérieur en plus. Donc, j'irai quand même avec Philadelphie sur ce match-là.
Philadelphie pour tout
toujours
le monde.
Toujours pas de TD pour Le'Veon Bell au passage.
Toujours pas de. Oui.
Enfin, à la course, puisqu'il avait marqué un TD à la réception contre Buffalo.
C'est vrai. Après, il n'y a pas grand chose autour, hein, le pauvre. Steelers, 1 victoire, 3 défaites. Ravens, 2 victoires, 2 défaites. Choc de division. Les Ravens sortent de défaite contre les Chiefs et les Browns. Leur défense a pris à chaque fois plus de 500 yards. Est-ce qu'ils peuvent tomber encore contre un adversaire qu'ils connaissent bien, les Steelers? A priori, Baltimore est favori hein, sur le début de saison. Mais pourquoi pas, avec les éléments défensifs de Pittsburgh Non, je te vois hocher la tête.
Non, mais c'est un match qui est pas évident, mais c'est surtout que de toute façon, d'un match à un autre, on attend vraiment de jauger ce que peut donner Mason Rudolph, qui a été quand même assez calamiteux, je trouve, à San Francisco, qui a proposé beaucoup mieux contre Cincinnati, mais contre une équipe avec un standard un peu moindre, en tout cas de ce qui monte depuis le début de la saison. Là, c'est sûr que je trouve qu'il y a énormément de points d'interrogation sur ce match. Mason Rudolph qui joue contre la défense des Ravens, c'est déjà 2 points d'interrogation qui s'affrontent quand on voit les prestations des Ravens ces dernières semaines. Encore plus contre des Browns qui se cherchaient offensivement. Donc là, avec une ligne offensive qui sur le pass pro a l'air efficace, avec un backfield offensif qui a repris quand même de la confiance face à Cincinnati, un rookie Diontae Johnson qui prend ses marques petit à petit. Je trouve que ça fait quand même des éléments qui, si Rudolph prend confiance, on n'aura peut-être pas forcément un écart aussi conséquent. Personnellement, j'y suis allé avec les Ravens parce que je pense que ce sera compliqué de stopper durablement le jeu au sol, même s'il y a toujours les mêmes armes, hein, des tweets, des Bush, enfin Fitzpatrick, etc. Mais j'ai un peu peur qu'à la longue, ce soit compliqué de maintenir tout le monde au sol.
Moi, je prends Baltimore aussi, et je pense qu'il y avait autre chose, c'est que j'aime bien les armes défensives de Pittsburgh. Après, je pense qu'en attaque, il manque les playmakers qu'avaient les Chiefs ou les Browns pour faire sauter la défense de Baltimore, et qui devraient avoir plus de mal, donc je vais partir sur Baltimore aussi. Redskins, 0 victoire, 4 défaites. Patriots, 4 victoires, 0 défaites. L'affiche la plus déséquilibrée de la semaine. La meilleure défense de la Ligue contre l'attaque en perdition des Redskins. Quel quarterback pour toi? On s'est déjà posé l'émission dans la question dans l'émission de mardi. Colt McCoy, Dwayne Haskins, et qu'est-ce qu'il nomme? Qui on met sur le banc, qui on met devant, qui on met inactif, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça?
Bah, qu'est-ce qui ne m'a pas l'air quand même dans un super mood en ce moment. Donc, après deux bons matchs, on va dire qu'il est un peu rentré dans le rang. Et bon, moi en fait, je comprends plus les décisions de Jay Gruden depuis pas mal de temps. Je l'ai pas mal défendu ces dernières années parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. Il arrivait à rendre cette équipe de Washington relativement compétitive, même avec l'absence de quarterback l'année dernière. Et là, je trouve que depuis le début de la saison, il a tendance à perdre un peu les pédales. Je ne serais même pas étonné que ce soit Colt McCoy qui démarre. Après, je me dis, si tu joues ta place, continue de lancer le rookie. Mais après, lancer le rookie juste pour le cramer, ouais. C'est une stratégie un peu... C'est pas ce qui préoccupera le plus Gruden, mais je trouverais ça dommage pour Haskins en l'occurrence.
Ils ont l'air de bien aimer Colt McCoy. Je sens le Colt McCoy. Bon, a priori, au niveau des pronostics, puisque c'est de ça qu'on parle, Tom Brady devrait pouvoir reprendre du rythme. Il sera face à la 28e défense de la Ligue. Et puis, la défense des Patriots devrait pas avoir trop de mal. Donc, on va dire Patriots.
C'est ça. J'ai hâte de voir Josh Gordon prendre de vitesse Josh Norman. Je pense que ça va être rigolo.
Carolina Panthers, 2 victoires, 2 défaites. Jacksonville Jaguars, 2 victoires, 2 défaites. Grosse opposition défensive. Les Panthers se sont bien réveillés ces dernières semaines. Deux quarterbacks remplaçants aussi. Kyle Allen contre Gardner Minshew. C'est deux équipes assez semblables au final dans la philosophie et dans les lacunes. C'est-à-dire grosse défense, pas beaucoup de cibles, quarterback remplaçant. C'est un peu la même chose. Moi, je vais miser Jaguars parce que j'espère que Fournette confirme sa belle sortie de la semaine dernière. Mais c'est là-dessus que je le mets.
Je te rejoins après. J'irai quand même plutôt vers les Panthers. Je sais que t'es beaucoup hypé par Gardner Minshew.
Oui, non, mais je l'aime bien. Mais c'est plus, tu vois, si Fournette confirme, ils ont une bonne assise, ils ont une bonne défense.
C'est vrai que le run stop des Panthers va quand même être tributaire de la fin de saison prématurée de Kawhan Short. Ça, c'est un gros, gros coup dur. Il est quand même dur à pronostiquer ce match-là. Là, pareil, ouais, je pense que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. J'irai quand même sur les Panthers qui ont repris vraiment du poil de la bête, qui sont sur deux victoires consécutives et en plus avec un Jalen Ramsey dont on ignore la présence assurée pour ce week-end. Bon, ça joue pas exclusivement. Enfin, ça jouera surtout sur de la vitesse du côté de Carolina et on sait que la défense des Jaguars a dû répondre là-dessus. Mais je pense qu'à la longue, avec des tranchées qui sont renforcées quand même du côté de Carolina ces dernières semaines, j'aurais tendance à y aller du côté de Charlotte.
Allez, Panthers pour toi, Jaguars pour moi. Houston Texans, 2 victoires, 2 défaites. Falcons, 1 victoire, 3 défaites. Est-ce que les Falcons vont donner signe de vie? C'est un peu le match des équipes qui ont du matos mais qui ne sont pas super bien coachées.
Bah, en deuxième mi-temps, oui. En fait, je pense qu'ils ont tellement été traumatisés par le Super Bowl 51 que maintenant ils ne jouent que les deuxièmes mi-temps.
Oui, ça peut être une option.
Ça peut être une théorie, mais plus sérieusement, c'est un match où, d'un point de vue de talent, je pense que ça se vaut.
Oui.
Mais oui. C'est toujours la même problématique avec Atlanta, tu le disais. S'il n'y a pas de discipline et s'il n'y a pas d'agressivité dans les tranchées, même avec la ligne offensive de Houston, qui est une des pires de la ligue, je pense que ça va passer. J'ai très peur du match-up entre Hopkins et Trufant.
Après, talent ça se vaut, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même un petit peu plus de matos en défense du côté de Houston quand même.
Oui, non, mais je veux dire, si tu prends attaque d'Atlanta, je trouve qu'il y a quand même plus de menaces offensives du côté d'Atlanta et plus de menaces défensives du côté de Houston. C'est en ça
oui,
que
d'accord.
Je trouve que
ça,
globalement, si tu prends le roster, il n'y a peut-être pas 8 victoires d'écart. Mais en tout cas, Houston, tout ne me rassure pas. Mais en tout cas, et j'en ai déjà parlé, il y a beaucoup de matchs qui se jouent à très peu de points d'écart. Donc de toute façon, ils sont habitués à jouer des matchs assez accrochés depuis le début de la saison. Ce qui n'est pas le cas d'Atlanta qui, à part Philadelphie, globalement, est hors du coup assez rapidement. Donc voilà, je trouve que Houston montre beaucoup plus de choses depuis le début de la saison et je suis pas sûr qu'ils auront besoin d'une ligne offensive énormissime pour venir à bout d'Atlanta, et c'est pour ça que je dirais pour les Texans. Et là, il n'y a même pas de superstition mise à part, parce que de ce que je vois depuis le début de la saison des Falcons, je suis encore plus inquiet que ce que je pouvais être au départ.
Eh bien, Texans x2. Alors, coup d'envoi dimanche à 22h05. Los Angeles Chargers, 2 victoires, 2 défaites. Broncos, 0 victoire, 4 défaites. Les Broncos sont aussi en perdition. Ils n'ont toujours pas volé un seul ballon. À ce niveau-là, les Chargers peuvent aider, hein, en théorie. Mais il y a quand même largement de la place pour les Chargers, normalement, dans ce match. Avec le retour de Melvin Gordon, a priori. Un Keenan Allen qui performe. Enfin, voilà. Moi, je donne Chargers. Ça me semble évident.
Oui, je pense aussi. Après, il faut se méfier de ce genre de match. On sait que l'année dernière, ils avaient été piégés à domicile justement par les Broncos. Après, c'est sûr que tu as la fin de saison de Bradley Chubb qui arrange pas sur un pass rush qui était déjà pas extraordinaire. Mais bon, des infirmeries pleines, il y en a aussi une du côté de Los Angeles. Je pense qu'il va y avoir un match-up sympa entre Keenan Allen et Chris Harris notamment, à surveiller. Encore une fois, moi, je sais pas si aujourd'hui, si je suis fan des Broncos, je suis plus rassuré que ça. En attendant, je les trouve pas infamants depuis le début de la saison.
Non, et puis c'est match de division, c'est les Chargers, c'est tout ça. Mais si c'est pronostiqué, je prends
c'est
les Chargers.
C'est ça, c'est ça. Ils ont manqué leur début contre Oakland. Après, les trois autres matchs, ils ont quand même dedans pendant très longtemps. Et je serais pas étonné qu'ils titillent les Chargers pendant longtemps. Après, oui, je te rejoins. Si je suis la logique et le pronostic qui permet de ne pas perdre un point sur mes adversaires directs, j'aurais tendance à aller vers les Chargers.
Dimanche à 22h25, Cowboys 3 victoires, 1 défaite. Packers 3 victoires, 1 défaite. Grosse affiche de la NFC. Ça sent les playoffs. Les deux équipes sortent d'une défaite. Les deux attaques ont des choses à prouver. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Alors, est-ce que ça t'inquiète, je vais commencer plutôt comme ça, que les Packers aient autant de mal à mettre en place cette attaque avec Aaron Rodgers? Alors, je sais qu'il y a de l'apprentissage, c'est une nouvelle attaque, etc. Mais j'ai pas l'impression que tous les quarterbacks peinent autant quand il y a une nouvelle attaque. Surtout les très bons quarterbacks.
C'était quoi ta question? Est-ce que ça m'inquiète, c'est ça?
Est-ce que ça t'inquiète, ouais, cet apprentissage très long maintenant des Packers?
Bah oui, il y a un moment quand même où il va falloir regarder la montre en se demandant quand est-ce que ça va se mettre en place, parce que mine de rien, alors bon, je trouve qu'on s'enflamme un peu sur certaines équipes de la NFC Nord, mais il y a quand même une division qui est assez ouverte, assez homogène. Donc
le bilan est là en tout cas.
Oui, bien sûr. Au niveau des confrontations directes, va pas falloir se louper en l'occurrence. Mais oui, non, j'ai un peu de mal à comprendre également comment ça peut prendre autant de temps, et surtout comment ça peut être aussi vacillant même au niveau des périodes d'un même match. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'attaque aérienne va être capable de prendre feu avec notamment Davante Adams, qui est reparti sur des bons standards. D'autres moments où ça va être Aaron Jones qui sera capable éventuellement de trouver les brèches et les espaces pour aller marquer les touchdowns. Donc c'est vrai que c'est... Encore une fois, on peut y voir une forme de complémentarité, une forme de diversité, on dira, dans le play call. Après, ce serait bien de voir ça sur quatre cartons d'une même rencontre et pas sur certaines périodes ici et là où, à un moment donné, sur telle série, ça va être le jeu au sol. Tiens, peut-être. Ah, bah là, du coup, Aaron Rodgers, il a enchaîné quatre passes de suite. C'est ce qui est un peu intriguant. Et en l'occurrence, pour revenir au match de dimanche, contre une défense contre celle de Dallas, qui, on l'a dit, contre New Orleans, a clairement pas démérité. C'est pas à cause d'eux, en tout cas, que Dallas perd le match. Mmh. Ça va être un sérieux test de nouveau pour Green Bay. On a eu quelques-uns en défense cette année.
Mais il y a test dans tous les sens, hein, parce qu'il y a quand même test aussi pour l'attaque de Dallas face à la défense de Green Bay, qui n'a pas démérité depuis le début de la saison. Ceci étant dit, donc, encore une fois, avec des profils à peu près similaires dans la dynamique, je vais y aller sur Green Bay, parce que je vais rester fidèle à ma théorie du meilleur quarterback quand tout est à peu près synonyme, à peu près similaire. Donc je vais dire Green Bay, mais match très incertain. Il me faut un nom.
J'ai rarement souvenir d'avoir vu Ezekiel Elliott enchaîner plusieurs mauvais matchs de suite.
C'est vrai.
Dak Prescott, je trouve, reste sur deux sorties assez quelconques également. Il y a une excellente ligne offensive, comme souvent du côté de Dallas. Je pense qu'il y a possibilité, alors peut-être pas de repartir sur la moyenne de 30 points qu'affichaient les Cowboys sur les trois premières semaines, mais là, pour le coup, je pense qu'il y aura... je pense qu'il y aura des points. Il y a une défense, et tu l'as bien souligné, du côté de Green Bay, qui voudrait une revanche. Mais je pense que Dallas a quand même la possibilité de mettre peut-être, allez, mettons 24 points pour réussir à s'imposer dans ce match-là.
Donc Dallas pour toi, Green Bay pour moi. Il pourrait se passer des choses au niveau des écarts cette semaine. Hein. Il y a quand même quelques petites différences. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi, 2h20 du matin, c'est le prime time. Chiefs 4 victoires, 0 défaites. Colts 2 victoires, 2 défaites. Les inarrêtables Chiefs contre les Colts. Jacoby Brissett risque d'avoir d'autant plus de mal à suivre que la défense d'Indianapolis montre des signes de faiblesse. Alors il y a l'absence de Darius Leonard, évidemment. Mais du coup, je vais prendre les Chiefs parce que ça me semble compliqué de les suivre. Et de toute façon, je ne vois pas à quel moment on va parier contre les Chiefs cette année.
Bah, y a un point d'interrogation sur T.Y. Hilton qui n'était pas là, il me semble, le week-end dernier contre Oakland. Je ne sais pas s'il est annoncé de retour. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans la liste des absents confirmés. Mais c'est peut-être une erreur de ma part. En tout cas, oui, il y a quand même beaucoup de pépins offensivement, justement. Hilton, Marlon Mack également qui est sorti sur blessure le week-end dernier. C'est sûr que. Déjà, Jacoby Brissett étant pas une star en lui-même dans cette attaque, si en plus les quelques armes qu'il a autour de lui à disposition, même s'il y a un backfield offensif de comité et des receveurs méritants, ça peut être un peu compliqué face à une défense des Chiefs qui est quand même assez prenable. Après, défensivement, j'attends une petite revanche des Colts parce qu'ils ont été très décevants contre Oakland. Je trouve que Détroit a exposé quelques petites failles de cette attaque de Kansas City. Il n'y aura peut-être pas 30 points d'écart, mais forcément j'irai avec les Chiefs.
Oui, se racheter en défense la semaine où tu joues les Chiefs, c'est quand même très compliqué. Donc je vais quand même prendre les Chiefs.
T'en prends 30 au lieu de 40, écoute.
Oui, voilà. Ouais. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi, 2h15 du matin. San Francisco 49ers 3 victoires, 0 défaites. Browns 2 victoires, 2 défaites. C'est la bataille des hypes, celle de l'année dernière contre celle de cette année. L'attaque des 49ers est statistiquement plus productive, mais ils ont roulé sur les Buccaneers, les Bengals et les Steelers. Bon, pas d'énorme opposition, même s'il y a des bonnes choses chez les Buccaneers au sol, on va dire. Est-ce qu'il y a un favori dans ce match ? J'ai beaucoup de mal. Je vois un test pour les deux défenses. C'est un match qui me rend très curieux, mais j'ai du mal à voir s'il y a un favori.
J'aurais tendance à te dire Cleveland. Bah, d'ailleurs, on a jamais autant vu les Browns en prime time, hein, parce qu'il me semble qu'ils avaient joué déjà les Rams cette saison. Donc, faut vraiment. On sent qu'on n'est pas les seuls pour certains à être montés dans le bandwagon de Cleveland.
Ah bah, c'est une équipe intéressante quand même.
Maintenant, en y regardant de plus près, je ne sais pas si d'un point de vue match-up, depuis le début de la saison, les Browns me rassurent plus que les Niners.
Il est intéressant celui-là.
Les Niners qui, alors malgré les pépins physiques de Joe Staley, restent une des équipes, je crois que c'est la meilleure équipe en termes de pass pro. Alors certains me diront qu'ils ont joué un match de moins que les autres, mais en tout cas ils ont toujours concédé que 2 sacs depuis le début de la saison. Donc il va y avoir quand même un petit test face à un pass rusher du calibre de Myles Garrett. Et puis je trouve qu'en défense, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Alors c'est pas une équipe qui prend 8 points par match, mais en tout cas c'est une équipe qui, je pense, est capable de freiner Baker Mayfield et surtout Nick Chubb. Donc, j'oublie pas que défensivement tout est pas rassurant du côté des Browns, qu'on prit un peu cher, je trouve, au sol contre Baltimore. San Francisco, c'est un peu la même physionomie sur le jeu au sol, maintenant qu'il y a les petits automatismes qui se font sur la ligne offensive, avec les décrochages chers à Kyle Shanahan. Je pense que ça va pas être simple d'arrêter le duo Breida-Mostert. Et en l'occurrence, c'est ce qui me pousse, sans forcément avoir un Garoppolo énormissime, à miser sur San Francisco.
Et ben moi je vais prendre les Browns, je vais miser sur la dynamique de cette équipe qui s'est réveillée la semaine dernière. Donc encore une fois, une différence de pronostic. Mon Dieu, il va y avoir des écarts dans tous les sens à la fin de cette semaine. Au repos, les Detroit Lions et les Miami Dolphins. Les cotes, c'est maintenant. Les meilleures cotes de la semaine, c'est avec notre partenaire Unibet. Grégory, je te laisse choisir la première et elle a un air londonien.
Tout à fait. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans la présentation. C'est sûr que les Bears apparaissent un peu plus favoris de par leur défense. Maintenant, très clairement, c'est un match sur terrain neutre où, alors, Oakland officiellement jouera à domicile, mais bon, ça, on sait qu'à Londres, ça veut tout à rien dire. Maintenant, Oakland, ça reste une franchise historique où je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'Européens un peu nostalgiques qui vont vouloir faire le déplacement, ne serait-ce que pour voir les Raiders sur le vieux continent.
Clairement, ils auront le plus de monde. Ouais.
Voilà. Et puis, malgré tout, il y a quand même un petit point d'interrogation, je trouve. C'est Derek Carr, qui a eu quelques petits passages à vide, mais qui a eu également des très très bonnes périodes. Donc, je pense que contre Chicago, s'il prend feu, ce serait pas étonnant de voir les Raiders s'imposer. Donc, une cote à 2,70, j'irais plutôt là-dessus.
C'est la cote audacieuse de la semaine 2-7 pour les Raiders à Londres. Tu l'as dit, c'est l'équipe qui reçoit le plus souvent à Londres ces derniers temps. Donc ils seront presque à domicile, ils auront le plus de supporters. Ça peut être la grosse cote de la semaine. Je vais prendre les Packers à 2-30. Je l'ai dit, je les vois battre les Cowboys. Et ils ont la meilleure cote dans cette opposition. Donc quand vous avez une équipe que vous avez pronostiquée qui en plus a la meilleure cote, autant y aller, les Packers à 2,30. Et notre cote bonus, Greg, alors il y en avait pas mal qui sont bonnes, on va en reparler dans le YOLO. On est parti sur les Browns à 2,40 dans un match incertain. Là encore, match incertain et bonne cote. Donc 2,40 pour les Browns. Browns, Raiders et Packers, ça nous donne un combiné. 5 euros misés, 74,52 euros de gain potentiel. Le YOLO, alors le YOLO, je l'ai dit, il y a plein de bonnes cotes cette semaine. C'est-à-dire les Raiders à 2-7 dans un match en terrain neutre avec une équipe en face qui n'a pas trop d'attaque. Les Packers, on l'a dit, à 2-30 dans un match incertain face aux Cowboys. Les Browns à 2-40 dans un match face aux 49ers. Derrière, vous avez, alors je l'ai mis dans le YOLO, les Jaguars sont à 2-30 contre les Panthers. Quand on voit que les Panthers sont à 1-45, là pour le coup, autant miser sur les Jaguars dans un match où c'est un peu pile ou face quand même.
C'est sûr.
Les Cardinals, alors là, je ne sais même pas si c'est un peu plus audacieux d'ailleurs, les Cardinals sont à 2-25.
C'est le plus gros contre... spread des deux.
Oui, les Bengals sont à 1,48.
Ah bah tu vois, donc, Arizona...
Bah voilà, donc la première de Kyler Murray qu'on a dit possible dans cette rencontre, pour le coup ça vaut son petit truc. Et puis les Buccaneers sont à 2,20 contre les Saints. Alors évidemment le nom Saints en face fait peur, mais pas de Drew Brees, une équipe potentiellement en feu... ça fait quand même une possibilité.
Et puis devin, oui, tu le dis bien, devin pour les Bucks à New Orleans, ça m'apparaît même pas forcément une énorme cote. Hein. Relativement par rapport aux précédentes que tu as annoncées, on pourrait dire que les Saints sont favoris, mais...
Les Saints sont à 1,50, les Bucks à 2,20. Donc,
ouais, c'est assez accroché quand même.
Mais disons que ça fait un beau combiné. Bon, je ne l'ai pas mis dedans, mais les Bills sont outsiders à 2,20. Donc ouais, c'est pareil, ça aurait pu être une belle cote qui se joue. Si vous êtes vraiment très joueur, il y a les Broncos qui sont à 2,85 parce que tu semblais voir une possibilité, donc je te la donne.
Si on est très joueur, les Redskins
très joueur, les Redskins, attends, je l'avais vu tout à l'heure. Je ne l'ai pas sous les yeux. Je vois les Jets à 4,90 déjà. Et au moment où je te parle, les Redskins n'y sont pas. Tu vois, c'est qu'ils sont pas considérés suffisamment.
T'as une cote sur Atlanta ? Je vais pas tous te les faire. Hein,
sur Atlanta, ils sont à 2,60.
Ok.
C'est voilà. C'est un peu plus compliqué, j'ai envie de dire.
C'est un peu plus touchy, mais ouais, une NFL où les écarts sont très resserrés, sait-on jamais.
J'ai un peu moins confiance. Le YOLO, donc Raiders, Packers, Browns, et vous rajoutez Cardinals, Jaguars, Buccaneers, ça fait 5 euros misés, 932,75 euros de gain potentiel. Si vous voulez vraiment être foufou, vous mettez 10 balles dessus, ça fait 1865,50 euros. Ça fait un très beau mois de salaire. Ouais. 1865,50 euros. Voilà, mais puis on va pas reprendre nos comparaisons de l'an dernier. Ça vous achète un quart de mètre carré à Paris. Selon l'arrondissement. Donc, il va falloir mettre peut-être un peu plus et avoir énormément de chance. Là, c'est pire que de l'auto. Voilà donc pour l'épisode numéro 308 du podcast Jean Actu. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. Vous avez plein de liens sur le site, n'hésitez pas à y aller. On met aussi des bons plans sur Twitter et Instagram tout au long de la semaine. N'hésitez pas à utiliser les liens sur le site et sur Twitter. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire parce que vous pouvez regarder les matchs en streaming quand vous êtes inscrit sur Unibet et que vous pariez sur les matchs. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci beaucoup Grégory.
Toujours un plaisir.
On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee aussi. N'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu. Pour les comptes perso sur les réseaux sociaux, Twitter, Grégory c'est @YelloRadioSa, moi-même c'est @AlainMattei. Suivez bien les réseaux sociaux, on sera à Londres ce week-end et on va essayer de poster pas mal de trucs. Et puis pour le reste, l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci encore Grégory.
Toujours un plaisir. J'imagine qu'il y aura des cookies du côté de...
Il y aura énormément de cookies, évidemment. J'ai découvert sur le site de la marque aujourd'hui que tu pouvais les congeler, donc inutile de dire que je vais en ramener un paquet.
Très bien, j'ai peut-être des commandes à te faire aussi.
Je vais prendre deuxième sac à... Pardon ?
Pas de cookies, j'ai peut-être des commandes à te faire, je vais réfléchir.
Ouais, je vais peut-être prendre un deuxième sac à dos rien que pour ça. Je vais revenir avec une valise à main juste pour les cookies. Donc l'actu de la NFL, tdactu.com, très bon voyage à tous si vous aussi vous allez à Londres. Et puis on se retrouve à 18h dans le fauteuil dimanche. en direct du Tottenham Stadium. Et ouais, on sera directement là-bas. On va espérer que la connexion tienne bien parce que je n'ai pas testé. Donc
j'ai rien voulu dire.
Voilà, si ça marche, tout va bien. Et sinon, on verra bien. Merci beaucoup à tous. On se retrouve donc jeudi dans le fauteuil à 18h. Très bonne fin de semaine. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.